Un chum.
Ce matin en Beauce.
Gaston Cloutier.
On entend souvent sur les ondes, nous ici, les ambulanciers qui parlent avec leur répartiteur et qui sont souvent appelés à, souvent, très souvent même, à se rendre dans des résidences pour personnes âgées. Que ce soit dans des résidences privées ou même des résidences publiques. Et je ne sais pas comment ils vivent ça actuellement, là, mais ils sont à risque. Les ambulanciers, il y en a déjà dans certaines régions qui ont été infectés et qui sont confinés. On parle dans une région de 14. Il y en a même qui ont dû transporter la première dame qui est décédée de coronavirus. Alors, ces gens-là ont nécessairement été infectés. Est-ce qu'on les protège bien? Qu'est-ce qui arrive avec tout l'équipement qu'on met à leur disposition une fois qu'ils ont transporté des gens? Et comment on fait pour s'assurer qu'une personne n'a pas le coronavirus? Et c'est souvent en posant des questions, puis en fonction des réponses que vous recevez, que vous vous exposez ou non à l'avoir, ce fameux coronavirus-là. M. Patrice Desmeules est directeur clinique du groupe Cambi, services et soins préhospitaliers. Bonjour, M. Desmeules.
Oui, bonjour, M. Cloutier.
Pas facile de vivre dans cette situation-là pour vos employés?
Bien, actuellement, les services préhospitaliers d'urgence là, et toutes les équipes du groupe Cambi, ainsi que tout le réseau de la santé, évidemment, est très sollicité par la situation actuelle. Évidemment, il y a de l'inquiétude qui est associée à tout ça. Puis, c'est vraiment basé sur les recommandations des experts au niveau du questionnaire là, que les centrales d'appel d'urgence et que les intervenants de la santé, les paramédics doivent poser. Et évidemment, c'est basé sur une réponse la plus exacte possible là, venant de la population. Donc, c'est ce que la situation qu'on a présentement. Puis, évidemment, quand les personnes ne répondent pas de façon juste, ça peut déclencher, évidemment, c'est ça, de l'inquiétude et aussi un manque de protection au niveau du non-déclenchement de certaines procédures là, suite aux réponses obtenues.
Souvent, vous allez aller dans des résidences pour personnes âgées, vous allez avoir éventuellement une clientèle qui peut avoir des problèmes cognitifs. Comment vous vous faites pour vous assurer qu'il a bien compris la question et qu'il y répond bien?
OK. Pour ce qui est du questionnaire là, qui est adressé directement au patient, les équipes de paramédics vont évidemment vérifier la capacité du patient à répondre aux questions. À défaut de pouvoir obtenir des réponses fiables ou justes, on va utiliser évidemment les proches ou le personnel de l'établissement ou les professionnels de la santé du CHSLD avant de pouvoir valider là. C'est ça, le différent questionnaire qui nous permettra de pouvoir appliquer certaines mesures de protection et aussi donner des soins requis et diriger le patient à la bonne hôpital, donc avoir utilisé le bon corridor d'orientation là, dans certains cas.
Bon, dites-moi, comment vous faites pour remplir ce questionnaire-là? Est-ce que vous le faites à distance ou est-ce que vous le faites en présence de la personne?
Donc, toute personne qui a logé un appel d'urgence, là, soit au 911 ou au centre de communication santé, donc la centrale d'appel d'urgence, donc a déjà eu un certain questionnaire qui est basé sur une certaine histoire, là, le voyage récent. Ensuite, les personnes qui présentent des symptômes là, qui sont le plus caractéristiques là, de la maladie COVID-19. Donc, on parle d'histoire de fièvre, de toux et de difficultés à respirer, donc c'est les symptômes principaux.
Est-ce qu'on a excusez-moi, M. Desmeules, est-ce qu'on a ajouté la perte de goût et d'odorat?
C'est ça. Bien, ça, évidemment, c'est des symptômes qui sont un peu plus moins typiques, donc on retrouve en certaines fréquences dans la maladie, et pour l'instant, selon les autorités de santé publique, donc ce ne sont pas sont pas inclus au questionnaire. Donc là, présentement, le questionnaire, c'est au niveau des symptômes qui sont le plus fréquents là, en termes de pourcentage donc de la maladie. Mais par contre, ces critères-là pourraient changer au fil du temps parce qu'évidemment, il y a des patients qui présentent la maladie de façon un peu moins typique, qui peuvent présenter, comme vous mentionnez, perte de goût et d'odorat, et ensuite de la diarrhée et différents autres symptômes, mais qui sont un peu moins typiques de la maladie. Donc, les critères, le questionnaire va évoluer au fil du temps. Donc, il faut s'adapter au fur et à mesure que on va s'engager dans le plan d'intervention pour la pandémie.
Supposons qu'un de vos employés ambulanciers se dirige vers chez un patient qu'on sait qu'il a des symptômes de coronavirus. Comment est-il protégé? Est-ce qu'on lui fournit un habillement spécial? Comment ça se passe sur le terrain?
Oui, présentement, il y a une procédure ministérielle là, qui a été mise directement, spécifiquement pour les intervenants préhospitaliers, pour les paramédics. Donc, immédiatement, lorsque la centrale d'appel d'urgence, évidemment, a déclenché là, un code, là, dans le fond, ce qu'on appelle en langage de paramédic, un 1046, donc un risque infectieux pour les paramédics. Et on va ajouter la mention MRS. MRS, c'est une maladie respiratoire sévère. Donc, qui correspond là, au syndrome respiratoire COVID-19. À ce moment-là, les paramédics, à l'arrivée sur les lieux, vont valider rapidement là, la situation, c'est ça. Mais ils ne s'approcheront pas à moins de 2 mètres du patient. Donc, ils vont effectuer une intervention sécuritaire. Une fois qu'il y a validation rapide, les paramédics vont revêtir l'équipement de protection. Présentement, l'équipement de protection qui est recommandé, c'est un masque N95, ensuite des lunettes de protection ou une visière, ensuite une blouse à manches longues anti-éclaboussure et des gants à poignet long. Donc, c'est ça. Donc, les partenaires s'assurent que les deux ont bien revêti l'équipement de protection. Et par la suite, ils vont se présenter au chevet du patient pour intervenir. Et ils vont compléter le questionnaire là, avec différentes questions sur les signes et les symptômes là, que le patient va présenter là, sur cette intervention.
Bon, on s'aperçoit qu'on a vraiment affaire à quelqu'un qui a le coronavirus. Qu'est-ce qui arrive avec cet équipement-là qu'on a utilisé? Est-ce qu'il est détruit?
Parfait. Donc, tout au cours de l'intervention, ben l'équipe de paramédics doit appliquer un souci, évidemment, de contamination. Donc, tout ce qui est touché, tout ce qui est manipulé fait l'objet d'une précaution particulière. Le patient est pris en charge dans le véhicule ambulancier. À l'intérieur du véhicule ambulancier, on a un système d'évacuation qui crée une pression négative là, qui correspond un peu à ce qu'on retrouve dans les salles d'urgence là, où on isole les patients d'écotement. Donc, ça va créer diminuer le risque de transmission aux intervenants de la santé. On va utiliser une cloison là, entre la cabine du conducteur et le module de soins à l'arrière. Une fois rendu à l'établissement de santé, dans le fond, le conducteur qui, lui, avait déjà retiré le premier équipement de protection qu'il avait revêti, va évidemment se laver les mains et se rhabiller là, pour pouvoir procéder là, c'est sûr, à la sortie du patient et à la prise en charge par l'établissement de santé. Fait que le matériel est disposé dans des poubelles là, qui sont appropriées avec des sacs là, pour risque biologique. Puis ces sacs-là sont dirigés là, vers c'est ça, des entreprises spécialisées pour le détruire ou tout simplement traités à l'interne de l'établissement de santé avec soit l'incinération ou d'autres types là, de destruction appropriée.
Est-ce que vous en avez suffisamment de ces équipements de protection-là, de ces habillements-là et tout ça?
Ben, depuis le début de la pandémie, évidemment, ça a été un souci au niveau des ressources matérielles. Donc, dès le début, là, le groupe Canvi, c'est ça, fait les démarches nécessaires auprès des distributeurs afin d'établir là, c'est ça, un inventaire qui pour pouvoir passer à travers la pandémie. Évidemment, rapidement, il y a eu des problèmes, des ruptures d'approvisionnement partielles ou complètes dans plusieurs produits. Le gouvernement a dû, c'est ça, prendre en charge l'approvisionnement pour différents types de matériel de protection afin d'éviter que certaines personnes puissent procéder à du surstockage et créer des problèmes d'approvisionnement pour le réseau de la santé et pour les entreprises ambulancières.
Et une fois qu'on a pris en charge quelqu'un qui est atteint du coronavirus, on l'amène à l'urgence?
Bien, présentement, l'approche qui est effectuée n'est pas modifiée. On évalue présentement différentes approches pour peut-être avoir d'autres ressources selon certains critères. Mais pour l'instant, les patients sont dirigés vers un établissement de santé local ou dans certains cas, ils peuvent être dirigés vers un centre d'établissement de santé qui est désigné où là, les patients qui sont suspectés ou probables ou confirmés de COVID-19 vont recevoir des soins spécialisés. Donc, c'est la façon de faire actuellement.
Êtes-vous, M. Demel, excusez-moi, en mesure d'évaluer en Beauce le nombre de cas de coronavirus que vous auriez eu à transporter?
Bien, pour l'instant, nous, ce qu'on reçoit, c'est des suspicions. Donc, une fois que le protocole est déclenché suite au questionnaire, donc on a appliqué les procédures. Pour nous, c'est un cas suspecté de MRS, donc un cas potentiel de coronavirus. Il y en a eu plusieurs depuis le début de la pandémie. C'est un faible nombre de cas qui ont reçu des résultats positifs. Donc, nous, au niveau de la traçabilité des patients, ce qu'on fait, c'est qu'on garde une trace de toutes les équipes qui ont été exposées à un cas suspecté. Et par la suite, lorsque l'analyse de laboratoire, donc le test de dépistage pour le COVID-19 va sortir, ben c'est les autorités de santé publique et l'établissement qui va communiquer avec les entreprises ambulancières, donc afin de pouvoir vérifier, établir un plan d'intervention si un cas positif avait été déclaré. Mais pour l'instant, nous, les services forestiers d'urgence, nous ne recevons pas les résultats des tests des patients. C'est ça, des implications de confidentialité et aussi de déclencher de l'inquiétude ou créer des fausses attentes chez les paramédics. Donc, pour l'instant, c'est basé sur le respect des politiques et des procédures actuelles. Et pour le reste, les autorités de santé publique vont faire les avis requis aux entreprises s'il y a des cas.
OK. Et il n'y a pas eu de cas, de ce que je comprends, de cas confirmés pour Cambi, là.
C'est ça. Ben, en fait, pour l'instant, c'est ça. Nous, comme je vous mentionne, les cas confirmés, ce n'ont pas dirigé. On n'a pas d'équipe qui ont été retirées jusqu'à maintenant, soit mis en mesure d'isolement ou en quarantaine. Donc, pour le moment, c'est sûr que le groupe Cambi exploite des services hospitaliers dans plusieurs régions du Québec. Puis d'autres régions sont beaucoup plus touchées actuellement par la maladie. Donc, on a transporté plusieurs cas, confirmés et transférés aussi des cas vers des établissements de santé désignés pour recevoir des soins spécialisés. Donc, pour le moment, plusieurs cas suspectés dans la région, de la Beauce. Et pour l'instant, pour le nombre de confirmations, ben c'est le travail des autorités là, de pouvoir le confirmer.
Quand on dit plusieurs cas suspectés, avez-vous un chiffre à nous donner?
C'est ça. Présentement, il y a environ entre 6 à 10 cas là, au total où on a déclenché le travail en fonction d'une suspicion. Donc, c'est ce qui a été déclenché. Donc, c'est à peu près ce qu'on retrouve dans beaucoup d'autres régions. Mais dès qu'on se dirige vers l'ouest, évidemment, là, on est rendu dans plusieurs centaines de cas, là, où il y a eu transport de patients suspectés et transfert de cas probables ou confirmés vers des établissements spécialisés.
Est-ce que j'ai bien compris que vous m'avez dit de 6 à 10 cas?
Oui, c'est ça. Pour l'instant, c'est ça, les statistiques évoluent. Pour ce qui est de la confirmation des cas, il faut toujours être prudent parce qu'il y a un délai. Pour ce qui est de ça, fait que pour l'ensemble du secteur que l'on dessert, on ne dessert pas tout, évidemment, le secteur. Donc, c'est environ une dizaine d'interventions là, où il y a eu déclenchement de la suspicion là, de MRS ou de COVID-19 qui nous a demandé d'appliquer là, les mesures de protection.
M. Demel, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. C'est très apprécié.
Oui, je tiens à souligner le travail de toutes les équipes là, de paramédics du groupe Cambi, donc qui ont fait un travail là, qui sont dévoués, puis ils s'adaptent rapidement aux changements là, des différents protocoles. Fait que merci de nous avoir permis de pouvoir, donc, pour la population, c'est important de répondre hein, de plus justement à toutes les questions.
Oui, parce que c'est ce qu'on espère le plus, toujours avoir un ambulancier pour nous transporter, qu'on ait ou pas le coronavirus, et surtout ceux qui ne l'ont pas, parce que c'est pas juste les gens atteints de ce virus-là dont on a à s'occuper. Il y en a bien d'autres cas quotidiennement.
Oui, effectivement. Ça nous fait plaisir de traiter les gens dans tout contexte.
Merci beaucoup, M. Demel.
Merci à vous. Bonne journée.
Au revoir. On parlait à M. Patrice Demel, directeur clinique, groupe Cambi Services et soins préhospitaliers.